podcast.com. Essaye ça.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
I have a friend in Jesus.
Jesus is a friend of mine.
Le Crachoir, épisode 97, qui marque l'absence de Jérémy Rivard, qui a une vie, hein, puis qu'il peut pas toujours être là. Mais on va quand même, on a quand même choisi, en fait, Martin a choisi un thème relatif à l'histoire, un personnage historique. Martin, salut.
Ben, salut. Écoute, merci de l'indulgence de nos abonnés pour la semaine dernière, alors que j'étais totalement catatonique. Frank n'exagérait pas du tout. Là. J'ai écouté le show après parce que, legit, je m'en rappelais pas du tout. Là. Je me rappelle qu'au début, j'ai dit « Ah, salut! » Puis après ça,
T'as dormi là.
Puis tu sais, vous enregistriez. Puis moi, j'étais assis à la chaise parce qu'on utilise... En tout cas, c'est pas important. Mais il fallait choix là. Là il fallait que je parte de quoi, même si je participais pas au show. Puis tout ce que j'ai, c'est une espèce de trip d'acide dans lequel je t'entends parler toutes sortes d'affaires, dont évidemment le déluge du Saguenay, mais après ça, les réserves sèches, tu sais, toutes ces affaires-là. Fait que ça a fait comme toute une espèce de gros trip de buvard, de, tu sais, là, que des bribes d'affaires que j'ai entendues, que, tu sais, quand j'ai réécouté le podcast, après, je me rappelais de les avoir. En tout cas, écoute, c'est vraiment surréaliste.
Ah, c'était spécial, t'es comme semi-conscient, tu sais, à la fin du podcast, ben là, je regarde sur l'écran parce qu'on se voit, hein, avec les caméras, puis là, je vois un corps sans vie se mettre à bouger soudainement pour dire, bon, c'est fait, tout se fait stop, record est fini. Moi, on me couchait. T'étais pas beau à voir, puis d'habitude, t'es très beau à voir.
Ben là, pas trop, mais regarde, juste pour finir la petite histoire, la même semaine, tu sais, là, ça a été le mardi, je pense qu'on a enregistré.
Ouais.
Le matin, j'avais une captation à faire pour des clients, parce qu'on fait des...
petit chat.
Non, écoute ça, c'est drôle, c'est que la personne qui était enregistrée venait de loin, on pouvait pas remettre, puis elle était en chemin. Tu sais, il y a eu de la neige la semaine dernière, là, à Montréal, puis je pense un peu partout. Puis moi, je m'installe là, j'ai un petit zoom installé sur un trépied, parfait, donne des petites instructions, tape pas ça à table, blablabla. Pars le tape, c'est chaud d'à peu près 20 minutes d'habitude, cette affaire-là. Je tombe endormi devant eux autres. Là. À la fin, c'est genre, Martin, on a terminé là.
OK, je venais d'aussi loin que ça.
Non. Ben, en tout cas, il y a une des deux personnes qui s'avère être une personne de nationalité française. Mais non, en tout cas, fait que regarde, longue histoire courte, je souhaite pas ça à personne. Ça se calcule en années dans mes souvenirs d'avoir été aussi malade. Puis comme tu peux entendre ma voix, tu sais, je suis pas encore sorti 100% du bois. Je tousse encore pas mal, mettons plus la nuit, là. Mais en tout cas, c'est pas le fun. Fait que
juste avant d'aller plus loin puis qu'on révèle le choix du thème que tu as fait.
Je veux juste
saluer ta rectitude politique quand tu as dit une personne française à place de dire maudit français. Hein, il faut combattre.
Ben non, mais ben, écoute, j'ai aucun point de dire qu'il s'agissait de clients. Alors, écoute, ils sont tous fantastiques, nos clients. Mais, écoute, pour revenir sur le sujet, ben évidemment, écoute, Frank, là, tu te dis je l'ai choisi. Tu sais, c'est très largement influencé par le fait que je connais ton niveau de connaissance sur le dit sujet et que je sais que tu en as beaucoup à dire. Puis je me suis dit, ben écoute, pourquoi que... parce que je sais que tu as déjà fait une chronique là-dessus dans une des anciennes moutures du crachoir. Je me souviens pas laquelle, c'est pas important. Mais là,
elle faisait partie de plusieurs personnages que je m'étais attardé dans la même chronique. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une personne. Bon.
J'ai un intérêt personnel, inquiétez-vous pas, on va le dire, c'est quoi le sujet, là, mais j'ai un intérêt personnel aussi parce que je me souviens que, je sais pas si j'étais dans l'épisode ou si je l'ai écouté, mais il y avait bien des affaires qui m'avaient surpris, tu sais, des trucs là, j'avais été moi-même endoctriné par toute l'espèce de machine de propagande autour de cette personne-là. Et pourquoi l'épisode 80, en fait, l'épisode 97, principalement parler de il va y avoir deux sujets, mais le sujet principal, ça va être évidemment 97 correspond au décès de Mère Teresa, que je sais que tu vas baptiser définitivement autrement et tu vas très certainement également nous expliquer pourquoi.
Ben, en fait, j'avais l'intention de m'abstenir de lui donner le surnom que je lui ai déjà donné avant. Parce que ça sert à rien, je pense que les faits parlent d'eux-mêmes pour briser cette icône-là. Et oui, c'est vrai, j'en ai déjà parlé dans une chronique qu'on pourrait qualifier d'iconoclaste, où j'avais débattu un peu des mythes autour de certaines personnes, Dalai Lama, Gandhi, puis là, j'embarquerai pas là-dedans, mais il y en a à dire sur eux autres. Mais aujourd'hui, on va parler, on va s'attarder un peu plus sur Mère Teresa, qui est une sainte, hein, qui a été béatifiée et ensuite canonisée, parce qu'avant d'être canonisé, il faut passer par le processus de la béatification. Mais là, aujourd'hui, elle est canonisée. C'est une sainte. C'est Sainte Teresa de Calcutta. Okay? On voit déjà les petites médailles, les petits logos, les petites... C'est comme...
Oh, la merch, c'est starté, là. La merch est commandée, là.
Oh, et puis d'ailleurs, voilà. Elle fit parfait, là. Elle a tellement le caractère, l'image parfaite, là, de la pauvre sœur démunie, mais qui donne sa vie pour aider les pauvres. T'sais, c'est du très bon marketing catholique. Par exemple, parce que là, si on suit la tendance des médias, si on se fie aux documentaires, entre guillemets, ou aux films, aux ouvrages, tout ce qui a été fait, écrit, dit à propos de Mère Teresa, c'est souvent de la propagande, puis ça cache souvent des faits qui viendraient nuire à cette image-là, puis on se rendrait probablement compte qu'elle n'est pas plus sainte que n'importe qui d'autre. En fait, moralement, bien en deçà, mettons, des standards que même vous et moi ou n'importe qui accepterait pour qualifier une personne d'une bonne personne. Je dis même pas une sainte, juste d'une bonne personne. Que ce soit sa manière bizarre de soigner les malades, parce qu'elle a été reconnue pour... Parce qu'on la connaît pourquoi, Mère Teresa. Hein? Elle a fait des... avec sa mission, son organisme religieux, c'est la mission... comment ça s'appelle? La mission des Sœurs de la Charité. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont ouvert des missions, des places pour que les pauvres malades puissent aller se faire soigner, puis les gens nécessiteux, puis on la voit dans des images, là, donner à manger du petit gruau de pauvre à des enfants malades qui souffrent, puis on la montre comme si elle se sacrifiait, puis qu'elle donnait toute sa vie à cette cause-là, puis que c'est donc une bonne personne, puis... Sauf que quand on s'attarde à ses pratiques, à sa philosophie, des choses qu'elle a dites, sa morale, sa façon de gérer ses affaires, il y a Anguille Souroche, puis il y a plusieurs personnes qui se sont donné la peine d'aller débusquer ces faits-là, notamment Christopher Hitchens. D'ailleurs, il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « The Missionary Position », la position du missionnaire sur Mère Teresa, dans laquelle... Puis Christopher Hitchens, il était beaucoup connu comme coloniste au, je pense, c'est le Vanity Fair, mais il est un journaliste international, un érudit, puis quelqu'un de très, très renseigné et très, très crédible, puis qui est capable de faire une enquête journalistique mieux que personne, puis c'est ce qu'il a fait. Puis il a découvert des choses pas très reluisantes au sujet de Mère Teresa. D'ailleurs...
Frank, avant que tu continues, là, on va mettre les choses en perspective, OK? Oui. Garde. Elle est, en fait, tu sais, elle s'est appelée Mère Teresa de Calcutta parce qu'elle a été enseignante en Inde et tout ça, puis elle est décédée d'ailleurs dans cette ville-là, mais...
Comme ça, entre guillemets, là, excuse-moi, Teresa, oui. Elle a choisi ce nom-là parce que c'est la sainte patronne des missionnaires. Puis un missionnaire, la définition de tâche d'un missionnaire, c'est pas d'aider les pauvres. C'est de répandre la foi catholique.
Bon, OK. Fait que son vrai nom, je vais totalement le démolir parce que elle est en fait d'origine, elle est turque, Mère Teresa, en fait. Elle s'appelle Angeze Gunje Bogzagjiu. OK? Je ne sais pas comment dire ça.
Je pense que c'est la pire prononciation que j'ai entendue. Je l'ai bien aimé.
Je te lis textuel, OK? Mm-hmm. Juste pour la petite histoire, elle est décédée le 5 septembre 97 à 87 ans à Calcutta. Sa béatification a eu lieu le 19 octobre 2003 sous le règne, et j'utilise règne très délibérément, de Jean-Paul II en 2003. Et sa canonisation est plus récente, ça a eu lieu le 4 septembre 2016 par Frank I.
Frank the First. On dirait quasiment que c'est moi.
Ben, c'est ça. Là. Là, ça destruit. En fait, je recommence. Sa canonisation a eu lieu le 4 septembre 2016, bien sûr, à Rome. Et sa destruction totale aura lieu le 26 février 2020 par Frank the First. Ça, c'est toi.
Je pensais qu'elle avait été béatifiée avant ça. Mais en tout cas, il y a toutes sortes de critères hein, pour être béatifiée. Ça prend des miracles, puis il y a une enquête avec. Tu sais, puis il y a tout un processus assez complexe. Je vais revenir là-dessus. Parce que avant, je veux revenir sur. Je veux expliquer pourquoi je mets en doute sa morale. En fait, j'ai aucun doute sur sa morale. C'est pas une bonne morale. C'est la morale de quelqu'un qui est un endoctriné fanatique et qui. Exerce un culte, pratique un culte de la souffrance. Parce qu'on sait que dans la foi catholique, la souffrance est comme vénérée. C'est une façon de se rapprocher de Dieu parce que toutes tes souffrances t'offrent ça en sacrifice au Seigneur, puis ça t'ouvre les portes du paradis. Puis d'ailleurs, je veux dire, tout est basé là-dessus parce que si les péchés de l'humanité que Dieu a décidé qu'on essaie avec, là, nous ont été pardonnés, c'est parce que Dieu a envoyé son fils en humain pour se faire horriblement torturer puis sacrifier. Le Nouveau Testament, c'est la morale de l'histoire, c'est qu'un sacrifice humain pardonne les péchés de tout le monde, OK? C'est ça, la morale, là. C'est que le pardon passe par un sacrifice humain. C'est ça, l'histoire, là. Fait que c'est pour ça que la souffrance est tellement tenue en haute estime dans la religion catholique. C'est parce que elle nous rapproche de la souffrance du Christ qui a vécu la passion. Tu sais, fait que c'est... Puis elle a comme... Elle est devenue obsédée par cet aspect-là, ce qui est tout à fait normal parce que c'est ce qu'on fait avec les religieux et les religieuses. Puis c'est pour ça qu'on justement on voit tant d'abnégation puis des gens qui se sacrifient volontairement comme ça. Mais des fois c'est pas tout le temps sain. Puis des fois ces gens-là c'est pas eux qui sacrifient, c'est d'autres personnes à leur place.
Hey, tu parles de ça, Frank, là. Oui. Je te fais une aparté de 2 secondes. Moi, je me souviens très bien de ça, là. Pas que c'était pratiqué, là, quand j'étais jeune, là. Tu sais, moi, j'ai le cas classique, servant de messe, chanter à l'église, toutes ces affaires-là. Moi, je me rappelle de m'être fait expliquer alors que c'était encore presque courant ou pas si lointain, on va dire ça plutôt comme ça, les indulgences plénières. Tu sais, tu parlais des sacrifices et toute l'équipe. Hey, écoute, 50 cernes te donnait un jour de moins au purgatoire, puis des affaires. Tabarnache! Sérieusement, là. Tu sais, au-delà.
Tu pouvais t'acheter des marches du paradis comme dans Toon de Led Zeppelin.
Ben, genre, tu sais, c'était. Puis écoute, là, je veux dire, c'était
typique,
quelque chose de sérieux, là. Ouais,
mais c'est typique de l'Église catholique. Je veux dire, eux autres, ils vendent des indulgences. Ils vendent le paradis aux riches, puis ils menacent les pauvres de l'enfer. C'est de même que ça marche. Les pauvres n'ont pas d'argent, fait que c'est pas de leur vendre rien, là. T'es menaces de l'enfer pour qu'ils restent au pas puis ils vivent dans la crainte. Puis les riches, eux autres, ben, tu leur offres d'acheter leur place au paradis. C'était ça, les indulgences, là.
Ça, on règle ça, puis là-dessus, ça fait penser, au, maudit, au fameux film, là, avec, c'était-tu de les Kingsmen? Ah, tu sais, là, les riches. Il y avait un nouvel ordre, un New World Order qui allait être établi. Puis les riches, ben, s'ils voulaient se sécuriser de ça. Tu sais, la théorie de on va éliminer plein de monde sur la Terre, fait que ça va tout régler les problèmes. Là, on est surpopulé, tatata, c'est un peu ça. Puis le gros méchant.
Tu pouvais payer ta survie, puis les pauvres crevaient.
Ah oui, il y avait une espèce de base dans une grosse montagne, puis ça coûtait une fortune, là. C'était pas 10 000 piastres, là, tu sais, pour faire partie du nouvel ordre naturel des choses. Ça fait presque penser à ça, là.
Excuse-moi, bon, je t'ai pris mon café.
C'est rendu avec le Anakin virus d'un micro à l'autre, mais non, ça fait presque... Tu sais, quand tu te désensibilises de la religion, tu sais, puis tu regardes ça pour ce que c'est vraiment, tu sais, on est-tu si loin de l'exemple de ce que je viens de donner là? Pas tellement.
Mais c'est pas pour rien qu'on valorise la foi puis qu'on met tellement l'accent sur la foi puis que la foi, c'est une vertu. La foi t'empêche de réfléchir puis t'enlève l'esprit critique pour te rendre compte de ces affaires-là. Quand t'as la foi, t'es convaincu que l'Église est bien intentionnée, fait que tu te poses pas les questions. C'est pour ça que la foi, ils font croire que c'est une vertu. C'est pas une vertu, croire sans preuve. Ça s'appelle de la naïveté, de la crédulité. Mais quand, si tu veux que Si tu veux avoir du pouvoir sur des gens, tu veux pas qu'ils te questionnent. C'est comme n'importe quelle dictature. On ne questionne pas la dictature. On l'épouse, on a foi. C'est comme notre bien-aimé dictateur a raison. Pareil pour le curé, le pape, ou Dieu, ultimement.
Vive nos chaînes.
Je vais venir à Mère Teresa, quand même.
Ben oui. Écoute, là, réglons tout de suite une chose. Je savais très bien qu'on irait sur diverses tangentes, là, c'est clair. Oui. Mais c'est sûr qu'on n'aura pas le choix. Mais tu sais, moi, je me souviens très bien que dans le topo que tu avais fait, justement, tu parlais de pratiques, de choses qui avaient été au sein de son œuvre de bienfaisance et tout ça. Écoute, là, ça n'a pas fait la une de ben des journaux, et parce que c'est pas très, très édifiant. Là,
c'est pas populaire, puis c'est ça, on voulait une vedette, puis... Mais regarde, OK, c'est parce que elle, c'est ça, elle est connue beaucoup pour ses missions. Il y en a 517 missions qu'elle a ouvertes elle-même pour accueillir les pauvres et les malades dans une centaine de pays. Des pays pauvres, évidemment. Quand on écoute les critiques les reportages soit des journalistes qui sont plutôt de droite ou qui ont un intérêt religieux ou qui se posent pas trop la question, c'est 517 missions où le bien absolu est pratiqué puis qui vient en aide à ces gens-là puis qui soulage des souffrances. Mais la vérité, c'était pas ça. D'ailleurs, il y a des médecins qui ont visité ces missions-là, puis eux autres, des médecins, ils ont qualifié ces missions-là de mouroirs, des places pour aller crever. Manque d'hygiène, même insalubrité. Dans une place pour des gens malades, c'est peut-être pas l'idéal. Une rareté de soins réels. Ça faisait plus de prières que de vrais soins, là. Pas vraiment de soins, là. Des petits pansements à gauche puis à droite. Un régime alimentaire insuffisant. Tu sais, quand t'es malade, c'est important, hein, de bien manger. Non, pas pour eux autres. Ces patients étaient mal nourris. Et pire que ça, absence de médicaments et absence d'antidouleurs. Puis ça revient encore au culte de la souffrance de Mère Teresa. Mère Teresa n'autorisait pas même des enfants malades en train de mourir de recevoir la visite de leurs parents ou de membres de la famille. Elle refusait que ces enfants-là qui souffraient en train de crever puissent avoir accès à des antidouleurs pour alléger leurs souffrances. Pourquoi? Parce que les malades doivent souffrir comme le Christ sur la croix. Ça, c'est ses mots à elle. Puis le problème, c'est pas un manque d'argent. Là. J'entends déjà certains qui disent « Ouais, mais là, c'est parce qu'ils sont très pauvres puis ils ont pas de moyens. » Autre erreur. Mère Teresa avait une fondation et cette fondation-là a amassé des centaines de millions de dollars. Mais Mère Teresa était beaucoup plus généreuse de ses prières puis moins de son argent. Puis encore moins, pas plus l'argent de sa fondation non plus. Il y a eu un paquet de catastrophes en Inde là, pendant son vivant à elle. Il y a eu des inondations, il y a eu une explosion d'usines de pesticides à Bhopal. Elle a offert des prières puis des médailles de la Sainte Vierge, mais pas une Christie de scène à personne. Tu sais, puis de l'argent, elle en avait, là.
Sais-tu s'il devait falloir qu'un peu comme la mafia, elle devait avoir un tribut assez intéressant à retourner au Vatican, là, vu que c'était tout sous le parapluie c'était la poster woman un peu de la religion catholique mondiale, là.
Ah, ben, c'est pas compliqué, c'est que l'argent qu'elle recevait, ça allait directement dans des comptes secrets des missionnaires de charité. Des comptes secrets, puis personne peut avec certitude dire où est allé l'argent, mais je peux te dire qu'ils sont pas allés dans ces missions, ça c'est certain. Ça allait pas mal. Tu sais, le plus plausible, c'est que ça serait allé à des couvents pour bâtir d'autres couvents puis répandre la foi, parce que je vais le répéter encore une fois, c'est une missionnaire. Puis les missionnaires, leur job, c'est pas d'aider les gens. C'est de leur apporter la bonne nouvelle. Autrement dit, de grossir la religion catholique pour la rendre plus puissante puis la faire perdurer dans le temps. C'est comme ça que c'est une de leurs façons de continuer à garder la business ouverte à la religion catholique, à l'Église. Elle a accepté aussi sans problème, tu sais, parce que là, tu sais, l'aspect moral est important là-dedans, parce que la religion, c'est supposé être le bien, puis elle est supposée représenter ça. Mais ça ne l'a pas empêché d'accepter la Légion d'honneur, pas en France, mais à Haïti, et une grosse bourse de la part du régime des Duvaliers, qui étaient des dictateurs, qui ont assassiné 30 000 Haïtiens. C'était une dictature là, dégueulasse, là, les Duvaliers, là. Mais c'était ses amis à elle. Ils ont donné de l'argent. Ils ont donné une belle médaille. Des millions de dollars qu'ils y ont donné. C'est allé à qui? Aux pauvres? Non, 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 non. Dans les comptes secrets des missionnaires de la charité. Les pauvres, il n'y avait rien. Dans son livre The Missionary Position, Christopher Hitchens dit « Mère Teresa, c'est pas l'ami des pauvres. C'est l'ami de la pauvreté. » Puis il fait référence, entre autres, à sa lutte acharnée contre l'avortement. Parce que elle c'était une craque-pote contre l'avortement, je veux dire. Elle était au-delà de militante, là. Dès qu'elle avait l'occasion, elle parlait contre l'avortement. Puis selon Hitchens, puis je suis d'accord avec lui, c'est une sérieuse entrave à la paix et puis à l'éradication de la pauvreté. Parce que selon lui, l'éradication de la pauvreté, ça passe en grande partie par l'émancipation des femmes. Lui, il dit « empowerment of women ». Que les femmes aient le pouvoir au moins sur leur corps, puis aussi éventuellement voter, puis tu sais, pas être des animaux de ferme ou des considérés comme des enfants dans la société. Partout où les sociétés ont réglé leurs problèmes ou amélioré leur situation face à la pauvreté, ça a comme coïncidé, comme une corrélation avec l'amélioration du sort des femmes. Mais elle pense que les femmes ne devraient pas avoir de pouvoir sur leur corps, c'est l'Église qui décide. Puis l'avortement, c'est un meurtre. D'ailleurs, elle l'a rappelé quand elle a reçu son ridicule prix Nobel dans son discours de remerciement au sujet des... Parce que là, c'était, je sais pas si tu te rappelles, à cette époque-là, ça se passait très mal, mettons, en Bosnie.
Ouais,
il y avait une guerre avec les Serbes, tout ça, puis il y avait beaucoup de Bosniaques, de femmes bosniaques qui avaient été violées par les Serbes. C'était carrément une arme de guerre. Puis ces femmes-là voulaient avorter. Ils se sont fait violer par des soldats, tu sais... Puis elle a dit, puis ça sur ses mots précis.
C'était pas des enfants de l'amour, mettons, là.
Non, c'est ça. Puis c'était pas des enfants qui étaient promis à un futur prometteur puis une vie heureuse, là, dans un pays en guerre. Ça, ces mots à elle, quand elle a reçu son prix Nobel de la paix, à propos des femmes bosniaques violées par des Serbes qui voulaient se faire avorter, elle a dit « I feel the greatest destroyer of peace today is abortion. Because it is a direct war, a direct killing, direct murder by the mother herself. » Je sais pas si vous avez compris, là. Mais pour elle, l'avortement, c'est quelque chose qui détruit la paix. C'est la guerre, c'est du meurtre direct fait par la mère elle-même. Pour elle, c'était aussi simple que ça. Puis ça, ça peut empêcher ceux qui l'aimaient de faire son apologie. D'ailleurs, on s'entend-tu sur une affaire, là? Le prix Nobel de la paix, là, c'est n'importe quoi, là.
Non, mais Frank, avant que tu embarques là-dessus, par contre, c'est parce que moi, j'en ai... Non, pas sur le... Je suis d'accord avec toi concernant le prix Nobel, mais tu sais, moi, j'en entends déjà, peut-être, qui vont écouter le show puis qui vont dire « Ouais, mais là, calmez-vous, calme-toi, Frank, c'est en 97, autre temps, autre mœurs. » Minute, là. On est en 2020, puis ce discours-là est toujours aussi présent, là.
Oui, puis ça fait pas si longtemps que ça, le 97, là. Puis d'ailleurs, il est tellement présent qu'il est en recrudescence. Aux États-Unis, ça fait combien d'États, là, qui viennent de rendre criminel l'avortement?
Non, c'est ça. Puis le tissu, le fabric de ça, comme diraient nos voisins du Sud, c'est et demeurera toujours la religion, là. Tu sais, c'est...
Oui, absolument. Le dénominateur commun des militants anti-avortement, c'est toujours la foi religieuse.
Toujours la religion. Ça changera pas. Mais il reste que... Moi, je suis rendu à un âge, là, puis c'est pas pour me vieillir ou pour me rajeunir, mais je suis rendu à un âge où est-ce qu'à cette heure, je me pose toujours la question quel âge j'avais pendant... J'ai assez d'années pour me remémorer des affaires de 23 ans. T'sais, 23 ans, j'en avais 24. C'est sûr que moi, dans mes top sujets de conversation avec mes buddies, l'avortement, c'était pas nécessairement là, tu sais.
Ben non, c'est pas dans ta réalité à ce moment-là.
Mais non, puis à cause de l'âge que j'avais, est-ce que, tu sais, c'était quelque chose, c'était pas un débat qui c'était pas un débat, point, tu sais, je veux dire, je me souviens très bien que même à cet âge-là, moi, dans ma tête, j'étais pro au choix, puis que, tu sais, c'était à la fille de décider. Je peux même te dire que sur une base plus personnelle, Frank, j'étais en couple avec une fille qui a décidé de ne pas amener une grossesse à sa conclusion. Puis, écoute, j'ai trouvé ça difficile, mais tu sais, il n'a jamais été question de « c'était une merde », puis c'est « whatever ». Non,
non, de l'influencer ou de mettre de la pression, là.
Du tout. Fait que, mais tu sais, il reste que, il faut quand même admettre, c'est le cas de bien des sujets qu'on aborde ou qu'on va aborder dans le crachoir, là, ouais. Au niveau opinion, c'est que, tu sais, tu te dis, comme là, tu sais, à cause des numéros d'épisodes, on est dans les années 90, fait qu'on va tout le temps à peu près dire, ah ouais, mais là, ça, c'est là 23, 24, 25, 26 ans, whatever, là, chaque semaine,
c'est pas
ça
va 100 ans, là.
Mais c'est pas le 100 ans, mais tu sais, il y a des affaires que moi, je réalise en avançant en âge que je trouve donc que c'était hier, puis c'était dans les années 90, puis il y en a d'autres que c'était dans les années 90, puis j'ai l'impression que ça fait 50 ans tellement c'est arriéré,
ouais.
Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, mais ça, c'est un exemple. Ce qui est bizarre avec l'avortement, c'est que ça a empiré, la question est revenue. C'était réglé en 97 au Canada, je suis pas mal sûr, l'avortement, là. Puis ça, c'est revenu. Ouais, ouais. Les conservateurs ramènent tout le temps cette affaire-là. Puis aux États-Unis, ben ils réussissent.
Mais là, c'est sûr que tu vas toujours avoir le mouvement, pas le mouvement de masse, mais la base dure de religieux.
Oui,
de,
la Bible Belt aux États-Unis. Là.
La Bible Belt, puis pas juste ça, même partout ailleurs.
Oui, ben oui, mais dans tous les États, il y a beaucoup de
absolument. Tu regardes des films, tu regardes la télé, tu regardes des séries sur Netflix, il y a des séries américaines, même s'ils ne font pas l'apologie de la religion, il y a toujours, tu sais, famille,
religion,
c'est ça, c'est toujours
présent. Toutes les fois qu'un politicien s'ouvre la gueule, il y a une référence à Dieu. Mais oui, mais c'est un des pays les plus fanatiques religieux sur la planète, croyez-le ou non. J'ai d'autres paroles sages de Maître Mère Teresa pour nous.
Abreuvons-nous,
oui. Elle dit, il y a quelque chose de très beau à voir les pauvres accepter leur sort, à le subir comme la passion du Christ. Le monde gagne beaucoup à leur souffrance. Puis, tu sais, tantôt, j'ai décrit un peu les conditions, hein, dans les mouroirs de Mère Teresa, pas d'hygiène, pas de lit décent, des lits d'à peu près 4 pouces de haut, là, que c'est plus des tablettes, là. Puis pas de médicaments, pas d'antidouleur, parce qu'il faut qu'il souffre, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, Mère Teresa, en vieillissant, elle a eu des problèmes de patate, hein, elle a eu des problèmes avec son cœur, pauvre Mère Teresa. Sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait?
Ben, t'es allé dans un de ses mouroirs?
Ben non! Elle est allée dans un hôpital américain ultra moderne, là. Tu sais, un hôpital que juste rentrer là, ça te coûte les yeux des fesses, comme ils disent.
Genre la Mayo Clinique, là, ou quelque chose de même, là, tu sais, où ce que toutes les stars vont se faire soigner.
Oui, c'est ça. Ben, elle, c'est une star, catholique. Fait que, elle a pas accepté sa souffrance avec la même résignation qu'elle exige de ses patients qui sont des enfants sans défense. Elle est allée dans un hôpital de riches ultramoderne aux États-Unis pour se faire arranger la patate.
Je pensais que tu étais pour me dire qu'elle était allée à Cuba. Ça n'aurait pas été surprenant non plus.
Ben non, c'est pas mal là.
Non, mais il y a des super bons médecins à Cuba.
Oui, là, oui, mais ça coûte pas assez cher. C'est pas assez prestigieux.
Ah, c'est ça.
Écoute, Martin, ça n'aurait pas été assez indécent.
C'est pas assez PR, c'est ça.
Ça n'aurait pas été assez indécent de sa part qu'elle ait des soins... juste correct. Fallait
c'est drôle, hein, à quel point que les autres souffrent, c'est bénéfique, mais quand c'est pour les gens de à la tête de ces mouvements religieux-là, ben là, hein, we've spared no expense, puis away
ouais, c'est
là.
Ça. Quand il y a une catastrophe, elle est généreuse en prière puis en petite médaille de la Sainte Vierge, mais elle garde son argent. Puis quand c'est la maladie puis la souffrance, ben elle est généreuse de la souffrance de ses victimes dans ses mouroirs, mais quand c'est sa souffrance, elle veut la limiter le plus possible puis elle veut vivre.
Tu sais, t'essaieras ça, toi, payer ton hydro avec des petites médailles de la Sainte Vierge, là.
Ah, ça marche pas, j'ai essayé.
Je pense pas que ça marche, hein? Ouais. Capoté. As-tu d'autres belles pièces d'anthologie, de citations?
Ben, je peux te raconter un peu, avant de penser à son miracle, qui est assez risible, je peux te raconter un peu comment sa légende s'est bâtie. Hein? Parce que c'est beaucoup grâce à un journaliste en particulier de la BBC, un journaliste de l'extrême droite, un journaliste de l'extrême droite catholique, là, la droite catholique, un journaliste anti-avortement, évidemment, il travaillait à la BBC, puis lui, il tripait sur elle. Puis En 1969, il a fait un film sur elle qui est un film dithyrambique. Là. C'est, dithyrambique, ça veut dire une critique tellement élogieuse que c'en est ridicule. Là. T'sais, y a rien de mauvais à propos d'elle. Pis, hein?
Un infopub Mère Teresa.
Oui, genre. C'est en plein ça. Son film, c'était carrément de la propagande, de la promotion pour Mère Teresa. Puis, à la suite de ça, elle, ça l'a mis sur la map. Elle est devenue célèbre, là, tu sais. Fait que là, il y a eu plusieurs voyages. C'est là qu'elle a rencontré les dictateurs en Haïti qui ont donné de l'argent puis une médaille. Elle s'est promenée sur tous les continents. Elle a eu toutes sortes de prix, dont le prix Nobel, dans lequel elle s'est mis le pied dans la gueule jusqu'à la cheville. Puis ça commençait avec ça. Puis on a commencé à voir que, oh, Crime, c'est une vedette. Puis l'Église a vu de l'intérêt là-dedans. Crime, une star. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Puis, donc, pour avoir une star, ça prend un titre. Il faut être béatifié pour être ensuite canonisé. Parce qu'avec des saints, là, toutes les fois qu'on évoque un saint, c'est tout le temps, il y a 500 ans, il y a 1000 ans. Hey, un saint moderne de notre vivant, ça ravive-tu la foi, ça, des catholiques? Ça va-tu remplir les églises, tu penses? C'est, en tout cas, c'est ce que l'Église s'est dit. C'est ce que Jean-Paul II s'est dit. Puis là, ben, ça prenait, je pense, deux miracles.
Deux miracles, c'est ça, that's it. Deux miroirs, un Kodak.
C'est fait.
Merci, bonsoir. Deux selfies, par ben, ouais, pardon.
Ça prenait je pense que c'est deux miracles confirmés. On appelle ça des miracles confirmés.
Un selfie par miracle, tu sais. Il me semble de White, Mère Teresa, qui sont selfie stick. Là, il y a le lépreux, tu sais, qui est rendu avec une belle peau de satin, tu sais.
Ouais, il touche, puis pouf! Ben écoute, c'est quasiment ça. Puis le miracle qui a consacré sa béatification est arrivé juste un petit peu après sa mort en 98. C'est une jeune Bangladaise qui se disait atteinte d'un cancer. Elle s'est rendue dans un des centres missionnaires de la charité, un des sièges sociaux de l'organisation de Mère Teresa.
Une des franchises.
Ouais, un des chapitres de Mère Teresa. Puis, elle a raconté qu'en rentrant, elle a immédiatement été frappée par un rayon de lumière qui émanait du portail de Mère Teresa. Elle est arrivée, puis il y avait un portail, puis une lumière qui l'a frappée. Puis, quelques heures plus tard, elle s'est couchée avec une médaille bénite par la sœur en personne. Quand elle était vivante, puis elle a dormi avec cette médaille bénite-là sur son ventre. Puis elle s'est réveillée, guérie.
Cancer free.
Mère Teresa était revenue pour la guérir. En tout cas, c'est ça que le témoignage. C'est ça que le Vatican a retenu. Là. C'est le témoignage qui a fait dire au Vatican, et voilà, on a un miracle confirmé.
Yes, sir, mais ça marche pas, Frank.
Pourquoi?
Parce que c'est pas la foi catholique faire ça, voyons, elle a dû souffrir comme les autres. C'est beau.
Non, mais c'est parce que si tu acceptes assez ta souffrance, Dieu peut décider de t'aider parce que tu as montré beaucoup de foi, de crédulité, je veux dire.
Ah, un billet gratuit.
Oui, c'est ça.
Une participation gratuite, OK, comme la loterie, là.
Ben non, mais elle est récompensée pour sa crédulité, sa foi, je veux dire. En tout cas, c'est un synonyme.
OK. Fallait que ça soit vraiment pur, là, tu sais, vraiment le saut de la foi totale, ouais. Comme Indiana Jones dans Last Crusade, puis tout, là.
Puis l'Église, par le biais du pape Jean-Paul II, a pas cherché plus loin, parce que d'habitude, ben ouais. D'habitude là, pour un miracle, il y a une enquête, là. Tu sais, puis la béatification aussi, mais ça a été botché un peu. Mais pour en revenir au miracle, ce qui est intéressant, c'est que quand on questionne les médecins qui ont traité cette femme-là, ils disent, puis là, je vous épargne son nom, pas parce que c'est pas un beau nom, parce que je veux pas le massacrer. La médecin qui a traité la jeune miraculée a dit, j'ai examiné Monica Becerra en mai 98 à l'hôpital de Balurgat. Et j'ai diagnostiqué une méningite tuberculeuse. Elle a ensuite suivi un traitement de 9 mois, puis elle guérit. C'est un problème médical qui a été soigné par la science, rien de plus. Ça, c'est le témoignage de la médecin. Mais ça, le Vatican, ils n'ont même pas voulu l'entendre. Ils s'en foutaient. D'ailleurs, Jean-Paul II n'a pas attendu non plus le délai obligatoire de 5 ans que tu es normalement supposé de respecter avant d'entamer le processus de béatification. Lui, il a commencé le processus de béatification avec l'annonce du miracle en 98. Puis d'habitude, c'est ça, il y a une procédure d'enquête, OK? Puis il y a un examen qui s'appelle Advocatus Diaboli, l'avocat du diable, pour vérifier la crédibilité des affaires.
Ah ouais, parce qu'on ne voudrait pas faire des accroires au monde, là.
Ben non, on est l'Église, on est crédible. Hey! Mais Jean-Paul II, il a décidé...
C'est empirique, ça, là. C'est pas des affaires de même, si piché à la
ben
vie.
Ouais. Non, ils font pas ça n'importe comment, là. Ben, en tout cas... Avant, il faisait pas ça n'importe comment, mais Jean-Paul II, c'était pour ça qu'il n'avait pas de saints, hein, depuis plusieurs années. Il n'y avait pas de nouveaux saints. Ben, parce que les enquêtes étaient rendues trop efficaces. Sauf que Jean-Paul II a réglé la question. Il a dit, savez-vous quoi? On n'en fera plus d'enquête. On n'attendra plus 5 ans. Puis il y aura plus d'examen Advocatus Diaboli. On élimine tout ça. Puis ça a donné que, à lui tout seul, Jean-Paul II a béatifié puis a créé davantage de saints instantanés que la somme de tous ses prédécesseurs depuis le 16e siècle. Depuis le 16e siècle, il y a aucun pape qui avait fait autant de saints que Jean-Paul II. Et ça tombe-tu bien parce que ces saints-là qui tombent du ciel arrivent exactement au moment où l'Église va pas bien, où les églises se vident, où les prêtres se font pogner dans des scandales de viol puis de pédophilie. Ça tombe-tu bien parce que là, ça leur prenait une... As-tu vu le film Wag the Dog?
Ben oui, c'est clair.
Dans Wag the Dog, il y a un scandale qui éclabousse le président, puis pour pouvoir, pour que son scandale passe inaperçu, il crée une fausse guerre de toutes pièces avec, je me rappelle plus quel pays, l'Albanie, je pense. Il invente une guerre dans les médias, tout ça, puis ça distrait l'attention et il garde sa présidence. Ben c'est comme ça que le Vatican a décidé d'essayer de garder ses fidèles en faisant des saints instantanés, en n'enquêtant pas, en ne se souciant pas ni de la vérité ni des faits, en prenant des vedettes, en les montant, en les élevant au rang de bienheureux, bienheureuse, béatifié, c'est ça que ça veut dire. C'est quand t'es béatifié, t'es considéré comme bienheureux, bienheureux. C'est comme c'est comme un grade, là. Tu sais, t'es passé de striker, là. À presque full patch.
De hang around à striker.
T'es passé de hang around à striker, puis après ça, tu passes de striker à full patch, un saint full patch. Yes. Mère Teresa de Calcutta, full patch.
Fait que là, Teresa a eu ses patchs.
Elle a eu ses full patchs, oui, après sa mort, mais quand même beaucoup plus rapidement que ça aurait dû l'être, admettons que ses bonnes œuvres auraient vraiment été bonnes. Mais si on fait un petit résumé de toute la patente, là, c'est une fanatique religieuse obsédée par la souffrance qui acceptait de l'argent de dictateurs et qui détournait cet argent-là de ses fondations pour enrichir la religion catholique. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de saint là-dedans.
Fait que quand elle a été béatifiée, ben là, elle a eu son bottom rocker. Après ça, puis que là, quand t'es canonisé, là, t'as ton top rocker, là, t'es full patch.
Ouais, elle a eu son coat, là, elle a eu sa soutane full patch avec toutes les crèches dessus. Sauf qu'elle était morte, fait qu'ils l'ont, je sais pas où c'est qu'ils l'ont mis, là. Ça doit être exposé dans un de ses mouroirs.
Ouais, c'est ça, mais écoute, tu sais, moi, Frank, là, j'écoute ces affaires-là, là, puis je doute vraiment qu'on va offenser avec ce sujet-là bien des abonnés du crachoir parce que, un, ils savent que... Puis deux, ben le monde qui écoute le crachoir, c'est pas des caves, là. Mais, tu sais, moi, là, toutes ces histoires-là, les bondieuseries, tous ces trucs-là, là, moi je suis rendu à une étape dans ma vie que... J'ai autant de la misère à comprendre le monde qui adhère à ça que les Flat Earthers, là. Puis je veux pas te partir, ces Flat Earthers. Puis c'est pas ça. Puis oui, je sais que la couche, le noyau dur des Flat Earthers, c'est des religieux.
Mais oui, j'en ai encore pogné un cette semaine. Puis c'était sur une page Facebook qui est un endroit où des croyants et des athées peuvent débattre. Ça s'appelle Croyants versus athées. Sauf que les croyants, il y en a de moins en moins parce qu'ils se tannent de pas avoir raison, parce qu'ils sont pas capables de rien démontrer de ce qu'ils disent. Hein, de la foi. Et puis j'ai pogné des Flat Earthers, là.
Écoute, Frank, pour clore ce bout-là, parce que tu vois qu'il y a un segway à faire, puis c'est pas le sujet dont je vais parler dans ma chronique, mais il faut que j'en parle pareil, parce qu'on est vraiment pas loin de ça.
Vas-y.
J'ai écouté cette semaine, les derniers jours, tu sais, pendant que j'étais en train de dans mon propre mouroir avec la grippe, j'ai écouté le deuxième passage d'Alex Jones à Joe Rogan, qui date d'un petit peu moins d'un an. qui dure 4h40 minutes.
De délire, écoute, c'est sûr. Il est tellement fou, ce bruit. C'est un malade. C'est, Alex Jones, c'est un malade mental. Là.
C'est de ça que je m'en allais te parler, c'est que. Comment je te dirais ça? Je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense qu'Alex Jones est cinglé, mais j'aime ça l'écouter parler. C'est drôle à dire.
Ben oui, mais c'est comme un prêcheur. Il est passionné. Il croit, croit tellement. Puis il pense tellement dénoncer. Puis il pense tellement dévoiler la vérité. C'est presque beau à voir. Là.
Ah, écoute,
c'est juste
quand,
que c'est
quand
pas
il
vrai.
A été parlé,
c'est juste que tout ce qu'il dit, c'est de la merde.
Quand il était allé débattre avec Piers Morgan du contrôle des armes à feu, quand, tu sais, je l'ai vu à plusieurs reprises aussi, j'ai écouté quelques affaires d'InfoWars, là, alors que c'était encore sur YouTube avant qu'il se fasse foutre à la porte. Tu sais, tout ça. Puis, je pense qu'il est cinglé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, tu sais, j'aime ça l'écouter parler, j'aime ça le voir péter son couvert de valve puis tout. Mais là, je l'ai. Tu sais, Joe Rogan, c'est le gars qui parle. Attends un petit peu, Alex. Attends un petit peu, là. Là, tu viens de dire telle affaire. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, c'est l'espèce de tempérance. C'est le gars qui essaie toujours de le ramener et dire wake the fuck up, Alex, tout. Mais écoute, c'est j'ai dans toute ma vie, là, et dans les médias, on va appeler ça les médias, là, ça a beau être YouTube, là, c'est rendu legit, là. J'ai jamais vu un personnage comme Alex Jones dans ce show-là. Rien à voir avec quand t'écoutes InfoWars puis un télésouffleur puis toute l'équipe, puis c'est un vrai show de nouvelles.
Non, il est naturel, cas, il parle.
Le gars, il a aucune idée de où il arrive puis vers où il s'en va. C'est une machine à parler. Il est pire que Jim Cornette à la lutte. Écoute, c'est absolument. Puis, par contre, là où est-ce que j'ai trouvé ça intéressant, c'est que, tu sais, Joe Rogan, moi, je respecte beaucoup l'intellect de Joe Rogan.
Oui. Okay?
Oui. Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais tu sens toujours qu'il y a une démarche dans les choses qui avancent.
Il y a toujours une réflexion derrière ses opinions.
Absolument. Puis, à plusieurs reprises, Joe Rogan tombe en bas de sa chaise à cause des affaires. Non, parce qu'il vérifie, puis c'est vrai. Exemple, là, que la CIA avait une des conspirations. Parce que là, il arrive là, puis il y a plein d'idées de conspiration. Il a dit, là, j'ai du stock pour toi, là. J'ai du stock pour toi, Joe, là. Là,
ouais, mais là,
en tout cas, mais écoute ça. Là, à un moment donné, ça part que toute l'espèce de les nazis après la Deuxième Guerre mondiale qui se sont envenus aux États-Unis, qui ont été les pères fondateurs de la NASA, tout le kit, qui a beaucoup de vérité là-dedans, là, by the way. Là.
Il y a toujours un peu de vérité dans les complots. C'est pour ça que les gens y croient. C'est parce que tu pars d'une petite vérité, puis là, tu bâtis une grosse affaire, une grosse théorie autour. Fait que là, le monde va vérifier la petite vérité. Fait que là, ils pensent que tout est vrai.
Ah, fait que là, lui, là, ça s'en va, puis ça s'en va, puis ça a de l'allure, puis ça a de l'allure, puis ça a de l'allure. Ça dure 20 minutes, le build-up, là, Frank, là. Tu sais, il parle de, bon, puis là, il nomme, là, le gars, il a une mémoire phénoménale. Là, oui. Écoute, c'est, tu vois, c'est, il a vraiment lu c'est sur ces affaires-là.
Ben, il mémorise ça comme un mélomane mémorise les noms des membres des groupes de musique, là.
Voilà. Et là, arrivent les aliens. Et les nazis avaient de la technologie extraterrestre. Et
là, il a pris ça dans Captain America.
Puis t'as Alex Jones devant Joe Rogan qui est en train de péter un couvert de valve parce que Joe Rogan part à rire, là.
Ben là.
En tout cas, écoute, j'ai capoté. Écoute, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui va être capable de se taper ça 4h40, là. Mais j'ai capoté ben raide. Puis je sais pas, j'ai même eu un moment à la fin où je trouvais qu'Alex Jones faisait pitié. Je pensais jamais dire ça de ma vie, là. Mais écoute, c'est donnez-y du stalopram, donnez-y quelque chose, trouvez quelque chose, là.
Mais il y a quand même un très vaste auditoire parce que ce qui compte dans les médias, c'est pas de dire la vérité, c'est d'être intéressant quand tu parles. Puis voilà. Si t'es passionné puis tu y crois à ce que tu dis, tu vas être intéressant. Puis c'est le cas d'Alex Jones, même si avec des affaires, ils ont juste pas d'allure, comme ces grenouilles gays, les grenouilles qui virent gays. En tout cas, c'est n'importe quoi. On n'embarquera pas là-dedans parce que je veux avancer dans le show.
Alex Jones, Teresa, même combo.
Oui, c'est ça. Hey, j'ai choisi une toune de Ozier, une toune que je connais, que j'ai déjà spiné à la radio, mais je m'étais jamais attardé aux paroles. C'est pas mal anti-religieux, je vous dirais. Ça s'appelle Take Me to Church. Puis ce qui est comique là-dedans, c'est qu'il y a plein de monde qui pense que c'est une toune qui fait l'apologie de la religion parce qu'il dit Amen plusieurs fois là-dedans. Ça dit Take Me to Church. Mais quand tu écoutes les paroles au complet, tu te rends compte qu'il parle contre l'endoctrinement, contre l'Église, contre la religion at large, mais surtout le christianisme. C'est pas mal solide. Take Me to Church avec OGE. On écoute ça. C'est le crachoir numéro 97, celui de Mère Teresa.
My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog.
Crachoir épisode 97 de Hell's Angel. C'est elle, hein? C'est Mère Teresa, là. Hell's Angel, l'ange de l'enfer. On change de sujet avec... Quoi?
Avec les révélations, entre guillemets, que tu nous as faites, écoute, un ou l'autre, je pense que ça revient, en tout cas.
Je pense même que c'est le titre d'un livre, peut-être même un autre ouvrage de Christopher Hitchens, Hell's Angel, à propos de Mère Teresa. Mais là, toi, tu ne nous parles pas de Mère Teresa, là. On pense à
autre chose. On change. tellement de registres, là, écoute, à tellement de niveaux, mais écoute, 97, ça correspond également au décès d'une figure iconique mondiale, et je parle bien sûr de Lady Di.
Une amie de Mère Teresa.
Ben là, écoute, hein, c'est clair. Lady Di, en fait, qui est décédée le 31 août 1997. Quelques jours, en fait, seulement avant Mère Teresa. Elle, je te dis ça de mémoire, il me semble que c'est début septembre 1997 qu'elle est décédée. On se rappelle, bien sûr, des circonstances. Puis là, je vous ferai pas toute l'historique de Lady Di et de toutes les tergiversations amoureuses et de gossip britannique, d'adultère et de, tu sais, toutes les circonstances de son mariage avec, bien sûr, le prince de Galles, le beau Charles. Et je dis le beau avec beaucoup d'ironie. Mais,
non, parce qu'on l'avait compris.
Pardon, mais je veux... Ça me fait m'étouffer moi-même. Bon, on va y arriver. Donc, écoute, c'est pas compliqué. Elle est le 31 août au soir, elle est dans un véhicule avec son... Bon, là, c'était-tu son chum, c'était-tu son compagnon, c'était-tu un ami, c'était... Bon, peu importe, un homme du nom de Dodi Fayed. Et le conducteur du véhicule, un monsieur qui s'appelle Henry Paul, qui était en fait également chef de la sécurité du Ritz de Paris où elle séjournait avec Monsieur Fayed. L'histoire veut que il y avait également, excuse-moi, le bodyguard, qui peut pas avoir un nom plus bodyguard que ça, il s'appelait Trevor Reese Jones, qui était son garde du corps. Donc, ces quatre personnes-là sont dans le véhicule, il y en a trois qui décèdent, il y en a une, le bodyguard, lui, va survivre. Écoute, comment dire, je veux dire, la gueule à tout le monde a décroché quand ils ont appris ça, tu sais, cette beauté-là, cette espèce de victime de la royauté britannique, le méchant Charles qui a trompé avec un genre de fling de secondaire 2 qui était lettre puis qu'on aimait pas. Puis, tu sais, tout le monde prenait pour Lady Di. Lady Di s'est garochée dans les œuvres caritatives après. Puis elle, l'argent, elle la donnait, là. Fait que, tu sais, consternation.
Pour son ami.
Ouais, c'est ça, tu sais. Probablement même que, elle devait en donner à Full Patch des sœurs de la whatever, de
ce moment-là. Ouais, elle devait en donner à Mère Teresa. C'était réellement des amis. Je dis pas ça en joke, là.
Je le crois. Je veux dire, qui trouve quelqu'un sur la terre qui aurait pu dire de Lady Di, oh, la tabaslac. Tu sais, il y en avait pas, là. Tu sais, écoute, elle avait, je veux dire, c'était l'enfant chéri des tabloïdes mondiaux, là. Tu sais, fait que, à partir de ce moment-là, je veux dire, c'est sûr que ça a été la consternation complète lors de son décès. Qu'on attribue en fait à plusieurs choses, mais ouais. Semblerait-il que le conducteur du véhicule a tout simplement essayé de sauver de paparazzi, qui, évidemment que ce fille-là, Lady Di, je veux dire, a passé sa vie à Québec, là, c'est ça. Puis bon, les rapports d'autopsie, tout ça aurait également démontré que le conducteur du véhicule, après un petit verre de trop, des petites pelules là-dedans, puis une couple de petites affaires, mais le propriétaire du fameux hôtel en question, un monsieur du nom de Mohamed Al-Fayed, lui était sorti avec virulence en mentionnant le fait que, selon lui, le Charles était derrière ça, le MI6 ou ce qu'on appelle le MI6 était derrière ça.
Les services secrets britanniques.
Eh oui, il y avait une enquête, tout ça, jusqu'à 2004, jusqu'à 2007, 2008. Le verdict est tombé, puis ce qui est arrivé, le terme anglophone utilisé, c'était unlawful killing. Donc, il n'y a pas eu de complot, quel qu'il soit, relatif au décès de Lady Di. Il y aurait donc eu bien du monde qui aurait voulu que ça soit, qu'on découvre que c'était le méchant prince Charles avec sa nouvelle blonde, puis tatata. Mais il n'y en était rien du tout. C'est un accident bête, plate et méchant. Ça a été attribué, en fait, à une conduite négligente par Henry Paul, le conducteur. Puis, il aurait été intoxiqué, puis il aurait eu de la médication aussi qui n'était pas indiquée à être prise avec de l'alcool.
Point. Bon, tu sais, quand ta job n'est pas vraiment importante.
Ben, tu veux dire, moi, c'est le premier cas, puis pourquoi je tenais à en parler, c'est parce que ça fitait avec l'année, évidemment, là, on est opportuniste de même, mais moi, c'est le premier complot de conspiration, la première théorie de conspiration dont je me rappelle. Parce que, écoute, 97, on n'est pas tous devant Internet Explorer, là. Dans ce temps-là, c'est mosaïque.
Mais il y avait la mort de Kurt Cobain, là, que c'était Courtney Love qui l'avait tué. Puis...
Ouais, mais en tout cas, moi, regarde, moi, je n'aimais pas Nirvana, fait que ça m'a pas vraiment touché. Puis tu sais, s'il y avait des théories de conspiration, tu les voyais où? Au dépanneur.
C'est ça, c'est qu'on les voyait dans les tabloïds des journaux ridicules, là, genre l'homme n'est jamais marché sur la Lune, ou bien les reptiliens. Ça, ouais. Moi, j'avais un ami dont la mère trippait là-dessus, puis moi, j'étais en contact avec plusieurs théories de complot, puis beaucoup d'affaires de reptiliens, puis d'intraterrestres, c'est bon, qui vivent en dessous de la Terre. Parce que la mère d'un de mes amis, elle a trippé là-dessus, puis c'était avant Internet, mais elle allait acheter des gros livres, ça, des pelles, tu sais, des 300-400 pages, le genre « Mystère de l'inexpliqué » ou « Les vrais maîtres de la Terre » ou « L'héritage reptilien ». J'invente des titres, là, mais tu sais, ça ressemble tout à ça. Là.
Ben, ils ont tous bien de l'allure.
Puis elle nous racontait ça, puis elle était tellement insultée quand j'étais sceptique, puis je dis « Ben voyons... » Ça n'a pas l'air à se tenir, là. Ben, t'es fâché, t'es insulté, là. Ben, comme quand je dis à un croyant que Dieu existe, probablement pas. Puis que trois quarts des affaires, ou sinon la quasi-totalité de la Bible, c'est des fabrications, ben, c'est le genre de réaction que j'ai. Fait que c'est des réactions que j'avais quand je doutais de ces complots.
Je pense qu'il y a une partie de l'humain qui veut qu'il y en ait un complot. Je pense qu'il y a une partie de l'humain, tu sais, surtout peut-être pour les...
Ça rend la vie bien plus intéressante, surtout, surtout ceux sur la vie après la mort, parce que ça apporte un bénéfice directement à la personne qui y croit. C'est comme, je suis pas un animal, je suis pas comme, je suis spécial, quand je vais mourir, je vais atteindre, tu sais, c'est pas triste, quand je vais mourir, j'ai pas besoin d'accepter que c'est la fin, c'est pas la fin, c'est un nouveau commencement, tu sais, ça sert à se consoler, tu sais, ça sert à avoir de la magie, puis ça peut être très compréhensible pour des gens qui vivent des situations difficiles, c'est pour ça que dans les prisons, dans tu sais, je me rappelle plus qui disait ça, mais il disait des athées, il y en a pas dans les tranchées, c'est, j'ai pas de misère à le croire, quand t'as la mort qui te pend au bout du nez tout le temps, ça doit aider beaucoup d'avoir des mythes puis des croyances comme ça pour être capable de vivre avec ça. Être athée, c'est un luxe de pays riche, là. T'sais, moi, je suis pas confronté à la mort régulièrement. Si je suis malade, je vais à l'hôpital, ça me coûte rien, on est au Québec. Si je mange pas assez, mais c'est parce que j'ai trop dormi ou j'ai trop bu la veille ou, tu sais, on manque pas de bouffe ici, là. Nos plus pauvres qui mangent dans les poubelles mangent mieux que la classe moyenne dans certains pays, là, tu sais. Fait que c'est l'athéisme, c'est un luxe que c'est pas tout le monde qui peut se payer. Puis c'est pour ça que les religions vont souvent dans les pays pauvres, parce qu'ils ont pas accès à l'éducation. Puis souvent, ils vont prendre en charge l'éducation. Fait que puis ils vont avoir cet aspect-là de la religion qui va réconforter les gens, qui vont les consoler de leur triste sort. Puis oui, tu souffres, oui, t'es pauvre, oui, c'est dur la vie, mais tu vas être récompensé de l'autre côté. C'est réconfortant de se faire dire ça. Fait que c'est pour ça que le marketing de la religion, ça marche beaucoup mieux dans des pays pauvres, puis les pays où la qualité de vie est meilleure, dans les pays scandinaves. Ici, au Canada, y a le taux d'athéisme est très élevé, parce qu'on n'a pas, on n'a plus besoin de ces mythes-là pour se consoler, parce qu'on est assez chanceux de faire partie des privilégiés sur Terre qui ont la vie très facile, même quand on pense qu'on l'a difficile, on l'a facile. Contrairement à, je sais pas, un Syrien, un enfant syrien qui, dans un pays qui est déchiré par la guerre, la faim, la violence, ben, tous les jours, le but de chaque journée, c'est de survivre jusqu'au lendemain. On sait pas c'est quoi ici, ce genre de misère-là. On y a jamais goûté, là.
Ben, Frank, je te félicite parce que t'es venu à bout de ramener la religion avec la mort de Lady Di. Ben, je vais t'en rajouter une couche. Figure-toi donc que dans son cercueil, elle portait une robe d'une designer qui s'appelait Catherine Walker. On s'en fout. Mais elle portait un rosaire qui lui avait été offert par Mère Teresa, décédée la semaine précédente. Mais là, pas des jours avant, mais c'est ça. Mais
ben, ils se sont rencontrés plusieurs fois, Lady Di puis Mère Teresa. C'était deux superstars de la bienfaisance.
Oui, ouais, exactement.
Il y en a une qui était evil, mais on ne savait pas.
Oui, ben c'est ça. Ça s'est venu plus tard grâce au crachoir. Mais,
grâce à Christopher Hitchens. D'ailleurs, il y a aussi, si vous allez sur le site de l'Université de Montréal, là, excuse-moi, j'en voulais encore à Mère Teresa, mais sur le site de l'Université de Montréal, il y a un article super intéressant parce qu'il y a des chercheurs de cette université-là qui ont fait un travail sur Mère Teresa. Puis d'ailleurs, ils font beaucoup référence au travail de Hitchens.
Ah ben, tu vois. Puis moi, pour conclure sur ce bout-là, en fait, moi, je suis un gros fan de Lord of the Rings.
Ouais.
Puis, dans Return of the King, dans le troisième de la saga, là, parce qu'on peut presque dire qu'il y en a six à cette heure, là,
ouais.
Avec le prequel, si on veut, là, mais en tout cas, dans Return of the King, je sais pas si tu te rappelles quand ils sont... quand que Gandalf est avec un des hobbits, j'oublie son nom, là, Pépin. Puis là, ben, il y a une espèce de gros ghoul ou je sais pas quoi, que t'as prêt à péter une porte parce qu'ils vont la défoncer, puis après ça, il va falloir qu'ils se battent. Puis Pépin, il demande, tu sais, la mort, tu sais, parce que, tu sais, on se souviendra que c'est un peu comme s'il revenait à vie. Puis là, il dit, tu sais, comment ça se passe, tu sais, c'est quoi qui arrive? Puis là, Gandalf, puis là, écoute, on s'entend-tu qu'on a affaire à un acteur absolument incroyable, là, tu sais, fait que c'est sûr que ça en rajoute, là, clairement, là. Mais là, il explique, tu sais, ben là, tu vois les plaines. Puis là, tu vois le soleil, puis là, tu vois la mer. Puis tu sais, quand tu t'écoutes le film, puis t'es plongé dans le lore de Lord of the Rings, là, tu sais, quand t'es un fan fini comme moi, si tu viens quasiment qu'à dire, ben oui, mourir, c'est pas si pire que ça, oui, on compte. Puis là, Pépine, après, il est comme, tu sais, parce que là, il a peur de mourir, parce que, tu sais, tout laisse croire que c'est ça qui va arriver. Puis là, il le regarde, puis il est comme, ah, hein? C'est pas si pire que ça, hein, finalement. Ben, regarde, pour moi, la religion, c'est exactement la même affaire. Ou, tu sais, l'explication de ce qu'il va avoir après, c'est la même affaire. Tu sais, c'est calme-toi, ça va bien aller. Fait comme ça, pendant que t'es ici, ben, regarde, on va te faire tout ce qu'on veut parce que c'est nous autres qui te rassurer sur le fait que l'après, c'est super le fun. T'as juste à être un bon petit mouton ici, puis tout va bien aller l'autre bord. Inquiète-toi pas. Mais là, compte-nous pas de mentir, là, par exemple. Parce que là, tu sais, fait que c'est un peu ça. Puis je fais un segway avec ce qui nous a fait un peu chirer. C'est que oui, effectivement, tu sais, je pense dans le cas de Lady Di, dans le cas d'un paquet d'affaires, dans le cas du 11 septembre, dans le cas d'un paquet de trucs, c'est ça. C'est que je pense que ce que je retiens de évidemment du tragique décès de Lady Di, parce que bon, qu'elle ait été chum avec Mère Teresa ou pas, tu sais, il faut quand même admettre qu'elle a, écoute, là, je te ferai pas toute la lecture de son testament, mais tu sais, évidemment qu'elle a laissé des choses à sa famille, mais tu sais, il y a eu, même après son décès, il y a eu beaucoup, beaucoup d'œuvres de bienfaisance. Tu sais, tous ses effets personnels se sont promenés dans plein de musées. C'était obligatoire que les profits, une partie des profits aillent à des œuvres de bienfaisance.
Oui, c'était une bien meilleure personne que Mère Teresa. Au moins, c'était pas une hypocrite.
Exact. Puis, écoute, tu sais, c'est comme je te dis, c'est justement, moi, pourquoi je tenais à en parler? Bien, évidemment, comme je disais, on est opportuniste. En 97, c'est arrivé. Mais c'est aussi parce que de ma souvenance à moi, tu sais, de conspiration puis de théorie de complot puis toute l'équipe, c'est un des premiers que je me rappelle, mettons, pré-Internet. Fait que mon hommage, moi, à Lady Di en musique ne sera évidemment pas Candle in the Wind, interprété par Elton John, sanglotant et tout ça, quoique, écoute, c'est une excellente chanson, mais ça va plutôt...
Ça va être, je veux deviner, ça va être Die, Die, My Darling de Metallica.
Non, ça sera pas ça non plus. ça aurait pas été mauvais, mais non, ça sera pas ça. Je vais y aller avec, écoute, un album iconique, que c'est l'album, c'est la première fois dans ma vie que je passais à travers un tape 8-track, qu'il a fallu que je le rachète parce que je l'ai trop écouté. Je parle bien sûr de l'album de Guns N' Roses, Appetite for Destruction, et de la célèbre chanson Rocket Queen. Yeah.
Le crachoir 97, celui de Mère Teresa. On est rendu à la poutine avant le mash-up. Martin, c'est ta job.
Ben oui, avant la poutine, petite mise au point, j'ai tellement vécu dans le passé cet épisode-là, je faisais référence à l'album Appetite for Destruction en 8 tracks, il y en a qui devaient se dire, oui, il est encore ses antibiotiques.
Genre moi.
Je parlais de cassette bien ordinaire, évidemment, 4 tracks, là, on s'entend là-dessus, là, on en parlait hors micro. Ouais, t'avais dit ça des 8 tracks.
Une cassette non, côté A, côté B, là.
Oh ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Poutine, mais pas compliqué.
Parce que là, je me demandais, là, parce que là, j'ai dit, voyons, pourquoi pas un rouleau de cire? Moi, j'écoutais ça, peut-être, For Destruction en rouleau de cire dans le temps.
Oh, oui, c'était écœurant. On écoutait ça sur une machine à musique, là, tu sais, avec les patates, avec des trous dedans, là, puis ça faisait ding, 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 quand tu tournes la manivelle, c'était écœurant.
Un orgue de barbarie.
On a aussi des tracks là-dedans, mon vieux. Non, écoute, la poutine, on vous fait ça version condensée. Évidemment, si vous êtes en train de nous écouter sur Radio H2O, c'est parce que vous savez que c'est disponible en exclusivité tous les jeudis dès 20h et on vous en remercie. Pour ceux qui ne le savent, qui prennent connaissance avec nous pendant ce moment-là, ben sachez que vous pouvez vous rattraper sur tous les épisodes du crachoir, de toutes les moutures, parce que c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes où vous pouvez trouver des podcasts, c'est-à-dire Apple Podcasts, Spotify, Google Play, tout bon podcatcher, Android. Vous voulez contribuer de façon caritative à quelque chose et vous assurer que les fonds serviront à de bons escients, ben vous pouvez visiter patreon.com/crachoir et contribuer à la hauteur de votre appréciation de notre travail. Comme Frank le dira probablement, je vais le scooper. Oui, on aimerait ça offrir autre chose que des denrées non périssables à Frank pour son excellent travail. Et c'est ça, écoute, j'espère que après je ne sais même pas la nouvelle mouture, entre guillemets, ou en tout cas la nouvelle incarnation du crachoir. Ce serait cool d'avoir vos commentaires. Jérémy Rivard va définitivement faire partie de la rotation. C'est un ajout super le fun, de un. De deux, ben j'espère que les langues sales ont maintenant réalisé que ce retour n'était pas un feu de paille. Fait que là, il faut vraiment faire sûr qu'on est là la semaine prochaine. Mais mais blague à part.
Je pensais que tu allais dire, genre, j'espère que les langues sales ont réalisé que Frank, c'est l'ultime langue sale.
Ah, ben, il y a un peu de cela aussi. Mais non, c'est ça.
Coup de coude.
Mais n'hésitez pas à être interactifs. Ceux qui le sont avec nous autres sur les différentes plateformes pourront vous le dire. On répond rapidement. On aime ça, avoir vos commentaires. Les bons, les très bons aussi. On aime bien ça. Et écoute, Frank, moi, tu sais, après la poutine, c'est toujours le moment où est-ce que je languis. Je me languis de savoir quel sera ton mash-up de cinglé de cette semaine. Alors...
Ben avant d'aller au mashup, tantôt tu parlais d'écouter des archives. Puis c'est vrai qu'il y a des nouveaux abonnés, des nouveaux auditeurs, du nouveau monde dans le monde du crachoir. Il y en a plusieurs qui vont écouter des archives. Cette semaine, je vous donne un petit hint. L'épisode 46. Il est spécial.
Ah, t'es pas encore. Écoute,
si vous êtes dans les archives. Allez écouter le 46, c'est spécial.
Commencez par là, c'est ça. Écoute, comment décrire ça? Anthologique, c'est le mot qui me vient à l'esprit.
C'est l'épisode le plus marquant de l'histoire du crachoir.
Ah ben oui, écoute, quand tu dis que d'autres podcasts nous demandent la permission de mettre un extrait de ce podcast-là dans le lore, écoute, c'est la consécration totale, là.
Ouais, ça se passe vers la fin. Hein, si
deux gars brûlés tête.
On a failli se battre cette fois-là, Martin.
Bah là, relax. Ça, je peux te le dire, là, mais non, tu peux pas. Ça peut pas être plus podcast vérité que ça. Là.
C'est du Fellini. C'était sincère, là. C'est, je vous garantis. Si vous pensez qu'on est capable de stager ça, vous surestimez nos talents d'acteur. Si jamais ça vous tente d'écouter les archives, le 46, il est spécial. Ah oui, tout ce que j'ai à dire. On s'en va au mon. Comment?
Attends un peu, Frank, juste pour ceux que, tu sais, parce que les agrégateurs de podcasts ne permettent peut-être pas de te rendre au crachoir épisode 14, là, tu sais.
Sur
parce
Radio H2O, certaine... oui.
C'est ça, tu te rends sur Radio H2O, vous allez voir, quand vous arrivez à la page d'accueil, liste des podcasts, sélectionnez le crachoir, tous les épisodes sont là avec un player intégré.
Ben, 97!
Ça, c'est clair, effectivement. Fait que là, ouais, arrête de me faire niaiser. Là, c'est quoi le mash-up?
OK, c'est un mash-up que, je le confesse, je l'ai déjà joué dans le crachoir, mais je l'aime tellement trop, ce mash-up-là. Je ris tout le long, du début jusqu'à la fin. C'est un mélange, un savant mélange entre Vanessa Paradis et le groupe metal old school Slayer. Peut-être le meilleur band metal de tous les temps. C'est South of Heaven avec Joe le Taxi. Ça fait South of Taxi. Et vous remarquerez que à mesure que la chanson Super Keten avance, l'intensité dans le chant de Araya, le chanteur de Slayer, augmente avec la musique. En tout cas, je vous dis, c'est fou. C'est de loin le, tu sais, c'est pas le meilleur mashup d'un point de vue musical, tu sais, mais c'est celui qui me fait sourire le plus fort. Je fais qu'en parler, puis j'ai commencé à avoir mal aux joues. Vas-y, Martin.
Ouais, Frank, là, avant qu'on s'en aille vers ce fabuleux mash-up, là, moi, c'est réglé, là. Le premier mash-up fait maison qu'on reçoit d'un abonné ou d'une abonnée du crachoir, là, t-shirt, OK? Okay. Un t-shirt du crachoir. OK, là, c'est fini le niaisage, là. Là, j'ai reçu un ou deux messages. Ouais, mais là, le mash-up. Non. On veut pas répondre à vos questions. On veut faire jouer votre hostie de mash-up. OK? Fait que faites-nous en un. Idéalement, faudrait que, idéalement, tu avais mis une règle, toi, là, une connotation.
Je veux qu'un des artistes qui fait partie du mashup soit québécois.
Parfait. Mais ça peut être juste la musique avec des paroles en anglais d'un autre tune.
Oui. Je veux juste qu'il y ait un Québécois impliqué là-dedans. Là.
Parfait. Fait que le premier ou la première qui nous envoie un mashup, il y a deux affaires qui vont se passer. Un, on le fait jouer, c'est sûr. Puis deux, cette personne-là va se mériter un t-shirt du crachoir avec grand plaisir, offert par crachoir.com et podcast.com.
Voici Vanessa Paradis et Slayer South of Taxi. C'était le Crash War 97. À la semaine prochaine. An unforeseen future nestled somewhere in time. Unsuspecting victims, no warnings, no signs. Judgment Day, the second coming arrives. Before you see the light, you must die. Forgotten children can form a new fate. Avidity and lust control. Your shattered sanity, souls of damnation in their own reality. Chaos rampant in an age of distrust, confrontations, impulsive habitat. Chaos rampant in an age of distrust. Confrontations, impulsive seven, owning us out of heaven.
Come in on board.
You must die. Owning us out of heaven. Owning us out of heaven.
Say that on
the owning us out of heaven. Search for a truth never told. The loss of our hope and your dignity. Chaos rampant in an age of distrust. Confrontation, impulsive habitat. Owning us out of heaven. Owning us out of heaven.
De la famille H2O Web Media.